Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Chaque année en France, 140 000 personnes sont frappées par un AVC. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'une de ces personnes. Mais c'est un Français un peu particulier parce que, au moment où l'AVC s'abat sur lui, il est PDG du groupe PSA Peugeot Citroën. Mieux que ça, on est en pleine crise financière en 2008, PSA bat de l'aile et il est frappé par un AVC. Son histoire a inspiré un film, Un homme pressé, avec Fabrice Luchini. Dans son rôle, il s'appelle Christian Streff et bien sûr il est avec moi. Bonjour Monsieur Streff.
Bonjour.
Le film a été adapté de votre livre, J'étais un homme pressé, qui paraît au Cherche Midi. Et c'est à partir de là, moi aussi, que j'ai bâti mon histoire, avec l'aide de Simon Veil. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je m'appelle Christian Streff. Quand débute cette histoire, au mois de mai 2008, j'ai 53 ans. Et personne ne pourra dire que je n'ai pas réussi. J'ai dirigé Saint-Gobain, j'ai présidé Airbus, et depuis un an, je suis le PDG de PSA Peugeot Citroën. 200 000 employés. Avec la crise financière, j'ai du pain sur la planche. La boîte ne va pas bien. Mais j'ai un beau projet pour la relancer. Le projet DS. La DS3, une petite citadine haut de gamme. Ça va marcher, j'en suis sûr. Le 22 mai 2008 au matin, à 6h15, Christian part de chez lui. Ah, ça se lève tôt, un grand patron. Ce matin, il s'est fait prêter une voiture de la concurrence, une Mini Cooper de chez BMW. Le modèle, justement, qu'il compte concurrencer avec sa DS3. Il roule jusqu'à la Seine, il remonte les Champs-Élysées, et quand il arrive place de l'Étoile sur les pavés, il fait deux fois le tour pour tester la voiture. Et puis il enfile l'avenue de la Grande Armée et il entre dans le parking du numéro 75, le siège historique de PSA. Ascenseur, 9e étage, le voilà dans son bureau. À peine arrivé, il avale un café et il envoie un mail à l'ingénieur en charge du lancement de la DS3 pour lui faire part de ses impressions sur la Mini et pour lui montrer que le grand patron s'intéresse à lui. Et puis il attaque une journée de dingue, comme tous les jours. Des rendez-vous, des coups de fil, les ventes qui chutent, la crise. En 11 heures, il a déjà bu 4 cafés. Et pourtant, il se sent fatigué. Dites-moi, Lauriane, vous arrêtez les rendez-vous, là. J'ai besoin d'un petit moment pour réfléchir. Un patron, ça n'est jamais fatigué. Au pire, ça réfléchit. Et donc, il fait quelques pas dans son bureau. Il se sent lourd, incapable de se concentrer. Alors il se dit, je vais faire une petite sieste, 10 minutes, par terre, sur la moquette, comme il le fait toujours. Et après, ça repart. Il s'allonge, il ferme les yeux, et en quelques secondes, il s'endort. Monsieur Streff ! Monsieur Streff, faut se réveiller, là ! Christian ouvre les yeux. Il voit Lauriane, sa secrétaire, et puis il voit l'infirmière et Philippe, son chauffeur. Et il l'entend dire « Ah non, mais on va pas attendre l'ambulance, hein ? Je l'emmène direct à l'hôpital américain. » En route pour l'hôpital américain, l'hôpital des stars, mais peut-être pas le meilleur hôpital de Paris, Philippe, le chauffeur, reçoit un coup de fil du directeur financier.
« Philippe, changement de direction. Je viens d'avoir la pitié salpêtrière, là, ils l'attendent. Vous y allez tout droit. »
Quand il arrive à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Christian se souvient d'un grand blanc. Quand il se réveille, il est dans son lit d'hôpital, entouré de médecins. Sa femme Françoise est là.
Ah Françoise, oh c'est bien gentil tout ça, mais j'ai du boulot moi. J'ai des gros dossiers en cours. On va me laisser partir hein, maintenant. Ça suffit, hop hop, on y va.
Plus grand patron que jamais. Sauf qu'évidemment, on ne le laisse pas partir. Et on a bien raison, parce qu'en début d'après-midi, Christian se met à baragouiner. De drôles de phrases.
Non mais fais gaffe à la pluance, là. Et surtout à l'Anctur, hein, parce qu'il y a la rumba de la Nuit Rouge. Ah, la rumba, tu comprends.
Christian a fait un AVC. Lui, bien sûr, ne se rend compte de rien. Il ne se rend pas compte surtout que sa vie vient de basculer. Et le lendemain, il baragouine plus que jamais. On ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais lui ne s'en rend pas compte.
Enfin, j'ai rien. Tout va bien.
En revanche, le jour d'après, il y a comme un progrès. Du coup, pendant les examens, à l'IRM, il se met à penser à la DS3, à la Peugeot 3008, au chiffre d'affaires, au contrat avec Mitsubishi. Il se dit « je vais retourner au boulot ». Il ne se rend pas compte de son état. Et ça, pour les toubibs, ça a un nom. Ça s'appelle l'anosognosie. Oublier qu'on a oublié. Et chez Christian, comme souvent, ça se double d'une aphasie amnésique. Un infirmier vient le voir. Il lui montre ses lunettes.
« Qu'est-ce que c'est, ça ?»« Eh bien, ce sont vos lunettes. Et ça ?»« Eh bien, c'est un stylo. »
Jusque-là, tout va bien. L'infirmier range son stylo. Il relève sa manche.
« Et ça, qu'est-ce que c'est ?»« Ben, c'est votre montre. »« Non, ce qui bouge, là, qu'est-ce que c'est ?»« Les aiguilles ?»« Non, ce qui bouge, là, c'est la trotteuse. »
Et le lendemain, il lui repose la même question.
Qu'est-ce que c'est là? Ce qui bouge là?
Il a oublié. L'infirmière recommence plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite. À chaque fois, Christian jure de s'en souvenir. La trotteuse, la trotteuse. Et pourtant le lendemain.
Qu'est-ce que c'est là? Ça qui bouge?
Il ne sait pas. Thierry Peugeot, le grand sachem de PSA, vient le voir, bien sûr.
Christian, reposez-vous, hein. Remettez-vous, nous attendrons que vous soyez remis, et puis vous reprendrez votre poste.
Il le remercie, mais dans sa tête, il se dit, bah, bien sûr que je vais reprendre mon poste, enfin. C'est l'affaire de quelques jours, peut-être de quelques heures. Sauf que le lendemain, Christian fait un troisième AVC. Et oui, un troisième, parce que celui qui l'avait amené à la pitié salpêtrière, ben c'était le deuxième. Il en a fait un premier 8 jours plus tôt. Un matin, il se réveille avec le côté droit insensible. Sa femme lui dit
« Ça peut être sérieux, Christian. Faut que tu vois un médecin. »
Et donc, il passe à l'hôpital américain. C'est pas loin de son bureau. Et il ment au médecin.
« Oh, mais ça va beaucoup mieux, hein. Côté droit, côté gauche, tout va bien, hein. »
Et le soir même, il s'envole pour l'Irlande comme si de rien n'était. Un rendez-vous avec des analystes financiers. Et 8 jours plus tard, il fait son deuxième AVC. Et là donc, il est en train de faire son troisième AVC. Il est dans sa chambre d'hôpital, le soir, et un peu comme au bureau, quelques jours plus tôt, il se sent tourné de l'œil. Il a le réflexe d'appuyer sur le bouton, le médecin arrive, et on l'emmène illico aux urgences. Cette troisième alerte, c'est celle qui m'a fait réfléchir. J'ai pris conscience que le risque que j'avais encouru était tout simplement de mourir ou de me retrouver dans l'état de mes voisins d'hôpital, lourdement handicapés. Christian, après ce troisième AVC, admet qu'avec la crise financière, il a peut-être trop travaillé, qu'il a trop bu de café, qu'il n'a pas assez dormi, qu'il n'a pas assez fait de sport. Il commence à avoir conscience de ça. Il a exagéré. Mais il pense toujours que un peu de repos et c'est reparti. Le professeur Sanson, qui le suit, douche son enthousiasme.
Bon, votre examen neuropsychologique indique qu'il y a du travail en perspective, hein, monsieur Streff. Vous avez des difficultés dans ce qu'on appelle la résolution des problèmes de logique verbale. Ça va s'arranger, mais il va falloir travailler beaucoup pour récupérer.
Et là, le professeur Sanson se lance, dessin à l'appui, dans une explication sur ce qui lui est arrivé. Un AVC de type ischémique.
Vous voyez là? Là se trouve une partie du cerveau qu'on appelle le thalamus. C'est là que ça s'est passé. Des vaisseaux microscopiques se sont bouchés, ça a formé un petit caillot de sang. Du coup, une partie de votre thalamus, je dirais environ 1 cm3, n'a plus été irriguée. Et elle est morte, hein, tout simplement.
Et de lui expliquer que là où ça a eu lieu, ça n'est pas trop grave. La partie morte ne stockait pas de données. Ouf! Avec des exercices, on doit pouvoir s'en passer. Ouf!
Mais je vous préviens, monsieur Streff, Il va falloir dormir. Dormir, dormir. Soulager votre cerveau. Vous savez que c'est pour ça que les bébés dorment beaucoup. Ils emmagasinent tellement de choses dans leur nouvelle vie qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour ordonner tout ça. Et ça se fait pendant le sommeil.
Et donc, il va falloir dormir et aussi faire de l'orthophonie. Et autant Christian a adoré l'explication technique, autant les séances d'orthophonie et les tests en tout genre, il n'est pas chaud. Le professeur lui cloue le bec tout de suite.
Dites-moi, comment s'appellent vos collaborateurs chez PSA ? Et les objets qui sont sur mon bureau, là, vous pouvez les nommer ? Oui, il y a le numéro de téléphone de votre femme, vous vous en souvenez ? 18 plus 15, ça fait.
Le boxeur est sonné, mais pas KO.
Dites-moi, professeur, est-ce que je vais pouvoir diriger à nouveau PSA ? Je n'en sais rien, hein, je ne connais pas assez votre métier. Mais avant, il va falloir travailler, dur, pour tenter de récupérer le plus de données possible. Et combien de temps ça va prendre ? Généralement, il faut 2 à 3 ans.
Dans sa tête, Christian se dit, 2 mois, oui. 2 mois, ça va suffire. Et donc, il quitte l'hôpital et il rentre chez lui. Et tous les jours, il va chez une orthophoniste, Christine, que lui a dégoté le professeur Sanson.
Christine, je vous préviens, hein, c'est un patron du CAC 40, alors vous connaissez ce genre de personnage. Ça sera difficile de le faire travailler à des choses simples, hein. Mais faites pour le mieux 1 heure à 2 heures par jour, d'accord ?
Et donc, tous les jours, Christian suit des séances d'orthophonie. Christine, par exemple, lui pose sur la table une 30aine de photos des patrons du CAC 40.
Alors, monsieur Streff, vous les reconnaissez ? Dites-moi leur nom.
Il en reconnaît 1 sur 10. Ensuite, elle lui donne des articles de journaux tout petits, tout simples. 2 minutes après, il a oublié de quoi ça parle. Un calvaire. Et au bout 1 heure et demie d'exercice, il est épuisé. Et ça dure comme ça 2 mois. Et puis arrivent les vacances d'été en Bretagne. Et là, c'est sa femme qui prend le relais. Ça tombe bien, c'est une ancienne institutrice. Ils ont trouvé un livre d'images.
Allez, Christian, dis-moi qu'est-ce que c'est ça ?
Je sais pas.
C'est une poire, Christian. Une poire. Et ça, c'est quoi ? Une pelle ? Bravo, chérie, bravo.
Le grand patron du CAC 40 réapprend des mots tout simples. Et il s'est fait une raison. Il recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il fait des progrès. Et il lui faut aussi un peu de temps pour réintégrer le prénom de ses 3 enfants, Lucie, Marion, Sylvain. Et puis la mémoire des chiffres, le code de sa carte bleue, le code de son immeuble, son numéro de téléphone. Lui qui avant lisait un bilan financier à la vitesse de l'éclair se retrouve à faire des additions de niveau CM2. Cruel. Et puis arrive la rentrée et Thierry Peugeot l'appelle.
Alors Christian, est-ce que vous vous sentez capable de reprendre les rênes ?
Ah ben oui, oui. Oui Thierry, bien sûr.
Il va juste travailler un peu moins, il va dormir 2 ou 3 heures de plus, il va continuer des exercices de mémoire, et ça ira. Enfin, c'est ce qu'il pense. 20 juillet, Christian est donc de retour au siège de PSA. Et pour montrer qu'il est à la barre, il organise une conférence de presse pour présenter les résultats semestriels. Avec un objectif très lourd, rassurer. Ne pas faire plonger le cours des actions PSA. Mais assez vite, les gens autour de lui, son directeur financier, sa directrice de la communication, se rendent compte que ça va être dur. Et dans son dos, il monte un plan pour limiter la casse.
L'objectif numéro 1, on est d'accord, c'est qu'il ait l'air en forme. Il faut surtout pas qu'on voit qu'il est fatigué ou affaibli. Et puis l'objectif numéro 2, c'est qu'il arrive à tenir, je sais pas moi, un petit quart d'heure pour exposer ses plans d'action face à la crise et les projets du groupe. Et puis après, on prend le relais pour présenter les comptes, d'accord ?
Le directeur financier le fait répéter. Christian est complètement à côté de la plaque. Et arrive le jour J.
Monsieur Streff, s'il vous plaît, qu'en est-il de votre état de santé? Est-ce que vous pourriez nous rassurer sur votre capacité à diriger le groupe?
Ah bah écoutez, comme vous le constatez, je suis en forme et je suis encore plus motivé qu'auparavant pour faire aller le groupe de l'avant. Sauf qu'après, Christian ne se souvient pas de la moitié de ce qu'il a à dire. Alors Liliane, la directrice de la com, lui glisse des petits papiers avec les mots qui manquent. Et figurez-vous que ça passe. Le rapport des analystes financiers tombe, aucun d'entre eux ne doute de sa capacité à diriger le groupe. Et donc à la rentrée, il redémarre en douceur. 4 à 5 heures de travail par jour, entre midi et 2, il rentre pour dormir et tous les jours, il fait ses séances d'orthophonie. Et à ce rythme, il réussit tout de même à faire avancer le projet de fusion avec Mitsubishi et même à assurer un rendez-vous avec le président Sarkozy. Mais à la conférence de presse au salon de l'automobile, début octobre, il bute sur les mots, il s'en mêle les pinceaux et en partant, il dit bonjour aux journalistes au lieu de leur dire au revoir. Chez PSA, ça commence à jaser. Et le 25 mars 2009, Christian est auditionné par des sénateurs. Il ne comprend pas les questions. Il est incapable de donner des réponses chiffrées. Son directeur financier essaye de rattraper la balle au vol, mais l'impression est désastreuse. Un crash en direct. Le soir, devant sa glace, Christian doit se rendre à l'évidence. Je ne suis pas encore redevenu celui que j'ai été. Rapide, capable d'amener mes équipes de victoire en victoire. Est-ce que j'en suis encore loin? Quand est-ce que je vais pouvoir à nouveau diriger PSA avec le même allant, la même vitesse d'action qu'autrefois? Et ce qui devait arriver, arrive. Le dimanche 29 mars 2009, 5 jours après son audition catastrophique au Sénat, Christian reçoit un coup de fil de Thierry Peugeot, le président du conseil de PSA.
Allô Christian? Écoutez Christian, on a beaucoup discuté, nous allons vous démettre de vos fonctions. On réunit le conseil à 14h, j'aimerais que vous soyez là.
Ah mais si c'est pour nommer mon successeur, vous n'avez pas besoin de moi, n'est-ce pas? Je trouve vos méthodes un peu expéditives, monsieur Peugeot. Vous ne trouvez pas? Écoutez, je vous demande deux choses. D'abord, vous ne dites rien de mon AVC dans votre communiqué de presse. Et s'il vous plaît, vous insistez sur le travail que j'ai accompli au sein du groupe.
Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce qu'il pense à ce moment-là qu'il va retrouver rapidement un job du même type, un job de grand patron. Sauf que dès sa destitution, tout le monde est au courant.
L'homme était fragilisé en interne à la suite d'un accident vasculaire cérébral il y a moins d'un an. Il était revenu au travail 2 mois plus tard, mais le discours était encore hésitant, parfois incohérent. La confiance des collaborateurs avait commencé à s'effriter. Les départs se sont alors enchaînés. Le DRH, le patron de la division financière, le numéro 1 de Citroën. La famille Peugeot a préféré s'en séparer pour mettre un homme neuf, issu de la métallurgie comme le demandait la bourse, au moment où l'on reparle d'un rapprochement entre PSA et Fiat.
Le monde impitoyable des affaires. Et il lui faut un peu de temps, bien sûr, pour digérer. Mais il finit par réaliser que 3 mois de rééducation, ça n'était pas assez. Le professeur Sanson avait raison, ça n'est pas 3 mois qu'il faut, c'est 3 ans. Il n'a plus de voiture de fonction, il se met à prendre le métro et à s'y perdre. Il continue ses séances d'orthophonie, il dort sans mettre le réveil, quelquefois 15 heures par jour. Et puis il s'arrête à une terrasse de café pour profiter de la douceur de l'air. Il lit, autre chose que des rapports et des comptes. Il redécouvre Paris. Il voyage, il se met à la sculpture. Et le temps fait son œuvre. En 3 ans, petit à petit, il récupère. Ah, pendant 3 ans, il a gardé quand même un petit contact avec le monde de l'industrie. Il est resté au conseil d'administration de ThyssenKrupp. Ça lui donne l'impression d'exister encore un peu dans cet univers dont il a était exclu. Et au bout de 3 ans, eh bien le virus du grand patron lui revient. Il se voit bien rediriger un grand groupe. Ses anciens amis du CAC 40 lui disent « Revois tes ambitions à la baisse, Christian. Envisage une voie différente. Dirige des entreprises plus petites. » Alors il investit dans 3 start-up qu'il chouchoute et il entre au conseil d'administration de grosses entreprises, Safran, le Crédit Agricole. Mais il n'a pas abandonné l'idée de remonter en selle. Ça me va bien de jouer au vieux sage. Ces positions de conseiller me donnent une envie folle de reprendre le manche. Diriger, voilà ce que j'ai appris en 35 ans de métier. Diriger.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.